Vous écoutez RTL.
Il est 11h03, vous êtes sur RTL. Et à la bonne heure, c'est tout de suite avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Céline, et on retrouve naturellement Céline Landreau à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Et nous nous plongeons maintenant dans À la bonne heure avec Gérard Rolls, qui est notre invité. Il est venu sans son fils Julien.
Je dis ça,
la bonne heure.
Les ans d'histoire, de légende des Jeux Olympiques chez Grün, on va en parler. Merci Gérard d'être avec nous.
C'est un grand plaisir. À chaque fois, c'est un bonheur d'être sur RTL.
Eh bien, écoutez, on va partager ce bonheur avec vous. Mais d'abord, je vous présente mes petits camarades. Il s'est longtemps occupé de sport, mais depuis qu'il a arrêté, il n'est plus très net. C'est Cyprien Sini.
Bonjour à tous. Alors ce matin, je ne vais pas vous parler de sport, je vais vous parler de moutons et de psychotropes. Alors vous ne voyez pas le rapport, c'est normal. Non. Et pourtant, il y en a un.
Il y en a un. Ouais, très bien. Voir. Il a remporté la médaille d'or du maillot express obtenu au JO de Chamalières, Régis Maillot.
Ouais, je prends beaucoup de maillots express, il y en a un déjà, c'est Robert de Béziers qui nous a écrit souvent à propos du match d'hier. Il dit il y a quand même beaucoup de noirs dans cette équipe du Cameroun.
Je m'en étouffe. On a l'impression qu'il a couru le marathon tellement il a l'air épuisé. Non, il a juste regardé la télévision. Mais hier, c'était une grosse soirée. Éric Dussard.
Bonjour à tous. Bah oui, grosse soirée, évidemment. Gérard Rolls s'oblige. On parlera des Gérards de la télévision qui se déroulait hier soir sur Paris Première. On aura quelques bons extraits de cette cérémonie. Assez drôle, je dois dire. Oui. Et quelques lauréats qu'on écoutera. En revanche, Stéphane, vous n'avez rien eu une nouvelle fois. C'est encore un échec.
Bah, c'est bien.
Ouais, non,
échoué au Gérard de la télévision, ça veut dire qu'on fait de la qualité.
Je suis triste pour vous. Et puis, on parlera de la sale soirée de David Pujadas, qui, à l'heure qu'il est, doit être en garde à vue. Il a dû casser la gueule à tout le monde en régie. Rien ne fonctionnait pendant le journal hier. Alors, il s'est un peu énervé et on l'a bien entendu.
Très bien. Il y aura une épreuve du 3000 mètres steeple avec le test à l'aveugle de Patrice Carmouze, consacré aux chansons des Jeux Olympiques et des grands événements sportifs. Allez. Et je vous demande encore une fois de respecter les règles. Il faut qu'on puisse entendre les musiques.
Ah, parce qu'il y a des règles, en fait.
Mais il y a des règles.
Voilà.
Et vous êtes...
On va instituer des règles à partir d'aujourd'hui.
Et dans l'actualité, nous parlerons sport en vous proposant des activités physiques à faire avec votre chien.
Oui.
Et oui, c'est important.
Et c'est possible.
Oui, c'est possible.
C'est possible.
Et j'ai même appris qu'on pouvait faire jouer son chien à distance au téléphone. Ah ouais. Je sais pas encore.
Même faire des émissions de télé avec son chien. Regardez Michel Drucker, juste à côté de lui.
Ouais. Exactement.
Oui, c'est pas physique.
Eh bien, je vous présente maintenant notre invité. À sa manière, il est un formidable athlète qui a mené depuis 40 ans une course d'obstacles sans faille à la télévision, faisant aimer le sport à plusieurs générations. Lui qui ne s'est jamais contenté de commenter les grandes compétitions, mais en casse-cou et baroudeur, il y a participé. Bien avant que naissent des émissions comme Koh-Lanta d'ailleurs. Il mérite assurément une médaille d'or du commentateur sportif. Au moment où il entend raccrocher les crampons pour mener sa carrière théâtrale et suivre à Rome la femme qu'il aime et qu'il a épousée, il mène sa vie tambour battant comme un coureur d'endurance, multipliant les épreuves et relevant les défis comme s'il avait besoin de se mesurer aux champions qu'il admire dans le foot, le rugby, la course automobile ou le cyclisme. D'ailleurs, alors qu'il s'apprête à commenter son dernier Tour de France et à quitter les plateaux de télé avant les JO de Rio, auxquels il renonce de peur d'être piqué par un moustique porteur du virus Zika. Oui, parce que je le dis, tous ceux qui vont aller aux JO de Rio, ils vont avoir Zika. Ah bah oui. Il y a des plus grands experts l'ont dit. Hein. Il y a
tout le monde repartira avec quelque chose, c'est bien.
Exactement.
Si tu vas à Rio.
Si tu vas à Rio. N'oublie pas
ton anti-moustique.
Oui. Mais je crois que les Zika, ils résistent. Hein.
C'est sérieux, ouais. Il y a ça, même c'est... l'un des meilleurs basketteurs du monde qui dit qu'il n'ira pas.
Oui, bien sûr.
C'est normal.
Les grands athlètes n'iront pas, c'est évident.
Bon. Ça, c'est l'homme qui aime le sport.
Ouais. Alors, il publie avec son fils Julien un nouveau livre, Les 100 histoires de légende des Jeux Olympiques aux éditions Grün, après les 100 histoires du Tour de France, du sport français, des gens du rugby, à bientôt les 100 légendes du théâtre. Et bien avec nous ce matin sur RTL, Gérard Rolls.
Merci Stéphane.
Vous êtes tout terrain, je l'ai compris.
C'est vrai que j'ai fait, hors mon métier, c'est vrai, deux ou trois grosses bêtises du style, par exemple, grimper sur le Mont Blanc, c'est vrai, où j'ai emmené mes deux fils et aussi des copains comme Eric Revel, comme Didier Gustin. Grimper, faire le sommet du Mont Blanc, il y a avant et après dans la vie. C'est fort, c'est une émotion, fort.
Il n'y aurait pas d'après pour nous, genre.
Il y en a certains que vous auriez pu laisser là-haut. Alors, on va commander.
Ça commence pas.
On va commencer avec l'interview athlétisme.
Vous écoutez RTL.
RTL
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Et donc je vous l'ai promis en présence de Gérard Rolls, une interview athlétisme. Il ne faut pas prendre tout au premier degré. Hein.
D'accord.
Vous êtes plutôt sprinter ou coureur de fond ?
Un coureur de fond. Mm-hmm. J'aime bien la longueur, 44 ans de service public à la télévision.
Oui, c'est ça. Ah, oui. Et vous supportez bien les épreuves ?
Oui, j'aime ça même.
Oui.
Je suis très compétition pour tout, pour tout.
Ah oui. Même avec votre fils, vous faites la compétition.
Bah, tout le temps, oui. On se dit qui va être le plus rapide de l'autre côté de la rue, qui va boire le café le plus chaud le matin, ou la douche la plus chaude. Ah oui. Tout est compétition dans ma vie. Ah oui. Ouais.
Est-ce que vous avez fait beaucoup de faux départs ?
Non.
Non.
Il y en a eu presque un, oui. Au moment où TF1 m'a demandé, Francis Bouygues lui-même m'avait demandé de passer sur TF1 pour m'occuper de grands événements et du sport. Et on était en négociation et le matin de la signature, on m'a proposé de faire le Téléthon, de lancer le Téléthon avec Claude Sérillon et Michel Drucker. Donc c'est une sorte de faux départ parce que j'avais dit pratiquement oui à Francis Bouygues. À l'époque c'était Patrick Lelay et Moujotte. Et puis je suis resté sur le service public par fidélité pour le Téléthon, puis parce que, et puis j'ai bien eu raison.
Alors, est-ce que, à part à Renaud Lavillenie, à qui vous tendez volontiers la perche ?
aux jeunes du service des sports qui ont énormément de talent et qui ont encore besoin d'un tout petit peu d'expérience pour passer le très haut niveau professionnel. Mmh. Mais là, ça y est, maintenant, dans le service des sports de France Télévisions, c'est sûr.
Mais qui dirige ? C'est toujours Bilalian ?
Très, très bon. C'est toujours Bilalian, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mmh. Il a été confirmé à son poste.
Il
a fait un formidable boulot.
Il
a fait un formidable travail, Daniel, depuis 8 ans. Parce que ce qu'il faut savoir aussi aujourd'hui, c'est que un patron du service des sports, c'est pas seulement un directeur éditorial. Mmh. C'est un grand business.
Il
s'est trouvé un autre boulot, lui. Lui qui était journaliste viscéral, et il a présenté le 20h, le 13h, enfin bref, et des grandes émissions. Mais là, il s'est retrouvé à négocier à longueur de journée pour les droits sportifs avec un budget qui est de 150, entre 150 et 200 millions pour acheter les Jeux Olympiques, pour acheter le tournoi Destination, le Tour de France.
Mais Roland Garros, là, on l'a acheté, mais bon, on ne peut pas le voir. Il y a plus belle la vie en ce moment.
Non, c'est bien.
Il pleut.
C'est la natation, en fait. C'est une discipline croisée.
Il y a des éclaircies prévues un peu aujourd'hui. Ah oui. Mais
vous avez une info ?
C'était pas arrivé depuis longtemps.
Non,
c'était pas arrivé depuis 2000.
Ans, 2000 ouais.
Depuis 2000.
Alors, plus par tempérament, vous êtes plutôt coureur ou sauteur ?
Ça dégénère.
Je suis plutôt coureur.
Bien sûr.
Oui.
Est-ce que vous aimez bien monter sur le podium ?
Ah oui, j'adore. Oui. J'adore. Ouais. Et par bonheur aussi, sans me vanter, mais c'est vrai que les 7 d'or que j'ai obtenus, ça a été un grand moment. J'en ai eu 5 dans le passé pour,
ça fait 35.
Pour le boulot. Bien. Ouais, dont le premier qui m'a beaucoup marqué en 1985. Parce que c'est l'année où, avec Patrick Chêne et Alain Vernon, on avait inventé le journal du Tour de France, le soir, qui avait été un grand succès. Et tout le monde attendait le premier set d'or. On était au Lido pour Robert Chapat. Et puis j'ai entendu mon nom. Alors là, ça a été comme un fracas de tonnerre, parce que c'était inimaginable.
Mmh. Et vous aimez faire des tours de piste ?
Des tours de piste, oui, bien sûr. Oui aussi. Mmh.
Est-ce que vous avez souvent eu des bleus ?
Beaucoup. Alors, des bleus à l'âme, pas trop souvent, parce que j'ai une propension énorme pour le bonheur. Je suis un optimiste.
C'est incroyable. Forme physique incroyable.
Depuis l'âge de 8 ans, où j'ai été gravement blessé à la tête par une balançoire. J'ai été scalpé par une balançoire au bois de Vincennes. Mon grand-père qui travaillait chez Renault. On quittait Belleville, on va au bois de Vincennes. Je glisse sous une balançoire en ferraille qui me scalpe complètement. C'est-à-dire que depuis cette époque-là, j'ai enchaîné après avec une primo-infection grave, une tuberculose. Je me suis dit, dans la vie, tout est cadeau. Tout est cadeau. Tout ce que je fais est d'être avec vous. Je le pense vraiment. C'est très sincère. Aujourd'hui, d'être avec vous, comme ça, en direct sur RTL, pour moi, encore aujourd'hui, c'est vraiment un cadeau. Tout est cadeau. Non, mais c'est cadeau.
Et pourtant, on n'est pas des cadeaux, croyez-moi.
Oui, mais lui, c'est un cadeau. Et une très bonne idée de cadeau avant les JO, surtout si vous n'y allez pas à cause de Zika, eh bien, les 100 histoires de légende des Jeux Olympiques chez Grund, on va en continuer d'en parler dans un instant.
Vous écoutez RTL. Maillot Express.
Oui, Régis, que se passe-t-il ?
Ça va mieux.
Oui.
Ah, bon. Ah, bah oui, ça... ah oui. Ça va mieux, on est d'accord. Le président l'a dit. La preuve, ça va mieux. Notre président a raison. Cela fait 10 jours que Roland Garros a débuté et on compte encore un Français parmi les participants. Alors que d'habitude, au bout d'une semaine, le seul Français en lice à Roland Garros, c'est l'arbitre.
Merci, Régis. Alors, Gérard Rolls, notre invité, vous publiez les 100 histoires de légende des Jeux Olympiques avec votre fils Julien aux éditions Grund. On voit des photos de vos cartes d'accréditation au JO. Alors, je commence par ça. Pourquoi vous n'avez pas voulu rajouter une autre carte d'accréditation, celle de Rio? C'est pour faire comme Paul Gasol, là.
Gasol.
Il s'appelle Gasol.
C'est Paul Gasol, là.
Qui a peur.
Paul Gasol.
Ouais, c'est ça.
Il a peur, il ne veut pas y aller.
Il a peur du Zika, oui. Non, c'est très simple. J'ai l'expérience de Londres. Enfin, bon, bref, par bonheur, j'ai suivi les Jeux Olympiques depuis 1984. Los Angeles. Les pianos blancs. Je ne sais pas si vous avez ces images-là du Coliseum de Los Angeles.
On n'était pas nés.
Il y avait un homme volant aussi. Il y avait un type qui avait utilisé un propulseur. C'était extraordinaire. Magnifique, déjà.
Ceux de Londres étaient superbes.
Avec la reine.
Avec Mr. Bean.
Pourquoi pas Rio?
Mon expérience de Londres fait que j'ai enchaîné Tour de France et Jeux Olympiques. Et je suis arrivé à Londres et j'ai été vidé complètement. Il y a deux raisons. D'abord parce que pendant le tour, je suis en alerte rouge. Je fais attention à tout. Je suis 2 heures en direct par jour.
Vous ne pédalez pas vous-même quand même.
Non, mais presque. presque. Et surtout en plus parce que je joue au théâtre le soir.
Ah oui.
Le Malade Imaginaire. Et cette année encore. Et ça marche tellement bien. Il y a 2000 personnes qui viennent nous voir le soir sur les places des villages. Donc, à Londres, j'ai commencé les Jeux très fatigué et puis surtout décalé parce que j'étais dans l'actualité du vélo et pas assez dans l'actualité du sport. Donc il a fallu que je travaille sur place jusqu'à 2-3 heures du matin pour prendre l'antenne le lendemain. Je me suis dit, on ne va pas recommencer cette année. Je vais faire un joli et un très beau Tour de France bien informé, top de ma forme. Et puis je vais laisser la place aux jeunes. Il y a eu l'équipe, il y a 65 journalistes de France Télévisions parce qu'on va retransmettre 700 heures pendant tous les Jeux, c'est-à-dire 21 heures sur 24.
Et le Tour de France, vous faites un documentaire aussi sur
Tour
de France.
Le 19 juillet.
Je me suis régalé. Dans un instant des légendes parce que c'est vrai que avec votre fils, vous êtes pris de passion et donc maintenant vous racontez les histoires du sport.
Ouais, depuis que j'ai commencé ce métier, donc en 1972, en sortant du centre de formation des journalistes, j'ai toujours dit, il n'y a pas que le résultat qui compte. Ce qui est important sont les histoires. C'est « Il était une fois un tel ». Et là, c'est vrai qu'on a fouillé avec Julien, mon fils, à propos de ce livre « Les 100 histoires de légende », là, chez Grunt. Et puis, on a retrouvé, par exemple, Néron, l'empereur romain. Mmh. Eh bien, il est médaillé olympique. Mais vraiment médaillé olympique, Néron.
Personne n'a osé la lui refuser.
C'est exactement ça, Stéphane.
Il courait tout seul, le gars.
Exactement aussi, Régis, bravo. De 10 points, vous marquez 10 points. Il était passionné par les courses de chars depuis son enfance. Vous rendez compte que Néron, sur une table, quand il était gamin, il avait des petits soldats et des petits chars en ivoire et il jouait comme ça déjà, comme nous on a joué avec des petits cyclistes, par exemple, ou des petites
des
voitures.
Soldats de plomb.
Lui, c'était des soldats de plomb. Lui, c'était les chars, passionné par ça, il s'est entraîné. Le problème, c'est que les Jeux Olympiques, à l'époque, les courses de chars, c'était avec 4 chevaux. Lui, il ne pouvait piloter, entre guillemets, qu'un char de 10 chevaux, donc il était tout seul, Régis.
Tout seul,
il a couru tout seul. Il a eu la médaille d'or. Il avait bien graissé la patte du jury. Ça, c'est sûr. Médaille d'or des Jeux Olympiques.
Il y a des histoires fascinantes dans le livre. On va y revenir dans un instant.
Il y a même des médailles d'or qui s'ignorent. Toujours pas
Sur
médaille
extraordinaire.
D'or.
Racontez quand même, parce que là, on est
au début du siècle.
1900.
En 1900. Ouais. Margaret Abbott. Qui est une golfeuse, est inscrite dans la compétition de golf des Jeux Olympiques de l'époque, parce que d'ailleurs le golf à l'époque était olympique, et revient cette année à Rio. Elle fait la compétition, elle gagne, elle retourne avec sa maman aux États-Unis et dans son club on lui dit, bravo pour la médaille. Elle lui dit, quoi la médaille? Mais oui, t'es championne olympique. Elle ne savait pas qu'elle avait gagné la médaille d'or
des Jeux Olympiques.
Elle était partie trop tôt en fait, avant la remise de médaille.
Non, c'était une compétition et après ils ont décidé que ça serait
olympique.
Elle a fait un swing et elle a tiré.
Elle fait même pas un score énorme.
ça faisait partie de ces jeux un peu étonnants du début du siècle, en 1900, à Paris, donc, à Paris, où il y avait, par exemple, tir à la corde, où il y avait de l'apnée. Il y avait une épreuve en natation.
Je crois que la France d'apnée. Est médaille d'argent de cricket.
Et du cricket.
Ouais. Il y avait le tir au pigeon avec des vrais pigeons.
Ouais, avec des vrais
exactement,
pigeons.
En mode Boulogne. Ils tiraient sur des vrais pigeons vivants.
L'apnée, ça continue, hein, l'épreuve d'apnée. C'est dans le métro aujourd'hui qu'elle se déroule.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern.
À la bonne heure.
Sur RTL.
Et nous sommes toujours en compagnie de Gérard Holtz pour son livre avec Julien Holtz. Les 100 histoires de légende des Jeux Olympiques chez Grund. Mais lui a des histoires à nous raconter, mais une drôle d'histoire de mouton. Et c'est Cyprien Cini.
Pas si net. Cyprien Cini.
Oui, cette histoire de mouton, elle se passe donc au Pays de Galles, dans le village de Ridipandi, où la population est littéralement traumatisée par une horde de moutons qui sèment la terreur. Des moutons, vous avez vu les bruitages, on est moyen. Des moutons qui sèment la terreur, qui rentrent dans les maisons, saccagent le mobilier urbain et font peur aux habitants. En fait, ces moutons, la langue pendante et les yeux hagards injectés de sang, sont tombés par hasard, au gré d'une balade, sur un atelier clandestin de fabrique de cannabis. Un atelier visiblement abandonné, puisque les moutons ont pu brouter l'herbe psychotrope abandonnée là, à leur guise, jusqu'à se retrouver complètement stone. Défoncés, les moutons. Alors, si sur l'homme, le cannabis rend plutôt mou, comme si on avait mangé 10 kilos de raclette, apparemment, chez le mouton, ça a l'effet inverse et ça inquiète les autorités locales qui craignent que d'autres animaux découvrent d'autres ateliers clandestins, car ils ont l'air d'être assez nombreux dans le coin, à tel point qu'une grande enquête sur les décharges sauvages de cannabis a été ouverte, histoire que d'autres moutons défoncés ne viennent plus saccager les villages alentours.
Incroyable. Alors, dans le genre bizarre, il y a aussi les nouvelles méthodes de la police de Chicago.
Oui, alors on se croira en plein film de science-fiction. Je ne sais pas si vous avez vu le film Minority Report avec Tom Cruise.
Ah oui.
Film de Spielberg.
Racontez-nous, Stéphane.
Bien sûr. Alors, je dis juste parce qu'il y a Amir qui. Bah, viens,
l'Eurovision.
Bravo. Ah bah si, il est à l'antenne. Il dit bonjour, on le salue. Bravo, Amir, d'avoir défendu les couleurs de la France.
Bonjour à Laurent Ruquier pour l'invité surprise. Oui.
Mais c'est cet après-midi. Les auditeurs auront une longueur d'avance.
Très tôt.
Je peux vous dire, Stéphane, non seulement il chante bien, évidemment, mais en plus, il est charmant.
Il est gentil.
On vient là de participer à N'oubliez pas les paroles.
Oui.
Et il a été absolument adorable.
Oui. Et en plus, il était bon.
Performant.
Et il a rétabli le
bon. Il est très bon, exactement.
On n'a pas terminé avant-dernier pour une fois. Bon, alors bref, donc, où on en était? On était sur le film Minority Report. Donc, vous l'avez vu avec Tom Cruise dans ce film. Ils arrêtent les méchants avant qu'ils aient commis leur crime. Bon, et bien à Chicago, ils essaient de faire un peu pareil grâce à un algorithme qui attribue des scores aux habitants les plus à risque et ceux qui risquent le plus d'être impliqués dans une fusillade, soit comme victime, soit comme acteur. Oui, c'est affreux. Alors, le calcul prend en compte le casier judiciaire, l'appartenance à un gang, d'éventuelles blessures par balle déjà subies. Enfin bref, tout ça est compilé ensuite dans une banque de données géante qui s'appelle Strategic Subject List. Et la police concentre ensuite ses efforts sur les personnes potentiellement dangereuses. Alors évidemment, c'est une info qui enflamme les réseaux sociaux, qui s'insurge contre le danger pour libertés individuelles. Et en fait, on le découvre aujourd'hui, mais l'algorithme est utilisé depuis 3 ans maintenant. Oui. Et on ne peut pas dire que ça soit très efficace, puisqu'en 3 ans, le nombre de crimes n'a cessé d'augmenter dans les rues de Chicago.
Enfin, on se détend un peu autour de la piscine.
Bah oui, c'est là que vous allez aller pour faire finir la semaine en direct de Marrakech, au Marrakech du Rire.
On va pas faire plouf.
Mais méfiez-vous de la piscine, les amis, attention.
Il y a Zika.
Et non, il n'y a pas Zika. Mais contrairement aux idées reçues, plus une piscine sans le chlore, plus elle est sale.
Bien sûr,
comme l'explique Slate.fr, l'odeur que nous associons à la piscine, quand on dit que ça sent le chlore souvent, eh bien en fait, ce n'est pas exactement l'odeur du chlore à proprement parler. Non, cette odeur, en fait, ce sont les chloramines, une substance née de la réaction du chlore avec les cheveux, les poils, la transpiration et le petit pipi qu'on fait dans la piscine.
C'est horrible. Le petit caca.
Bah oui, donc en fait, plus
ça se voit un peu plus.
Non. Donc en fait, plus la piscine sent la piscine, plus elle est sale, d'autant que le chlore n'est pas efficace pour éliminer l'urine et la transpiration dans l'eau. Non, les amis. Et oui, qu'une seule solution, la douche avant et le bonnet de bain. En plus, je suis sûr que ça vous va très bien, Stéphane.
Oui,
le
bonnet de bain. Vous allez voir.
Ah, merde. Un petit maillot, un petit maillot. Faut que je vous envoie les photos, parce que je suis pas invité.
Eh bien, merci. Merci beaucoup, Cyprien Cini. J'en profite pour vous dire que sur Twitter, le compte Twitter de La Bonne Heure, nous vous faisons gagner aujourd'hui le livre de Gérard Holtz, les 100 histoires de légende des Jeux Olympiques. Alors, retweetez la photo de Gérard Holtz, ou du livre plutôt, Enfin, comme vous voulez, sur notre compte à la bonne heure et vous recevrez votre exemplaire dédicacé à la fin de l'émission. Bonne chance à tous. Allez, on retrouve Gérard Rolls justement pour continuer à parler des belles histoires des Jeux Olympiques.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern
à la bonne heure
sur RTL.
Et nous sommes toujours avec Gérard Rolls. Gérard Rolls, on peut révéler ça, nous avons eu la chance de nous retrouver il y a une semaine pour faire entrer ensemble à Grévin, au musée Grévin, Renaud Lavillenie, qui est même notre, le plus grand champion olympique, parce que vous l'avez...
Il a tous les titres, champion de France, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique, et surtout le record que tout le monde pensait...
6m16.
Oui. Si, bravo Stéphane, 6m16 ah, qui appartenait depuis plus de 20 ans à Sergueï Boubka, l'Ukrainien. Renaud Lavillenie, en 2014...
C'était imbattable. Et à Grévin, il nous a montré sa perche de 5m20.
Calmez-vous Stéphane.
Une super perche de
5m20. Très souple. Super rouge. Elle est entre, ils l'ont scénographié comme ça, ils l'ont entré dans le mur.
C'est sûr, vous parlez de Grévin ou on a plutôt basculé sur Pigalle là en fait
Vous êtes jamais allé de l'érotisme.
C'est le voisin qui doit être content.
C'était Diriner le voisin.
C'était Diriner.
Il y a Tony Parker, il y a tout le monde. Et Zlatan. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses assez fascinantes dans votre livre sur les. Ces 100 légendes, 100 histoires. Comment vous les avez travaillées? Comment vous avez sélectionné?
Alors. Mon premier patron, qui a été Philippe Gildas, m'a toujours dit, donc je le répétais tout à l'heure, il faut toujours commencer par « Il était une fois », les contes et les nouvelles. D'ailleurs, ce livre se lit un peu comme un roman.
Oui.
C'est pas du tout les performances, les chiffres,
non,
les choses comme ça.
Non, c'est des histoires humaines.
Exactement. Ce sont des histoires humaines, à la limite, plus que même de sport. Et donc, la sélection s'est faite très naturellement avec Julien, mon fils. Donc, on a d'abord sélectionné 150, 200 histoires et on s'est dit quelles sont celles qui vont le plus intéresser, par exemple, les femmes, celles qui ne connaissent pas vraiment le sport. Là, 1936, par exemple, les Jeux nazis à Berlin.
Jesse Owens.
Record absolu de médaille d'or. Alors on a dit que Hitler ne voulait pas le saluer, c'est pas tout à fait vrai. La grande tradition, c'est que les chefs d'État ne saluent jamais les athlètes pour pas mélanger la politique.
Mais vaut mieux
et
pas
le
qu'il salue d'ailleurs, parce que Hitler, quand il faisait le salut, c'était.
Bon. Mais c'est surtout, il y a une histoire incroyable avec une femme qui s'appelle Stella Walsh.
Oui.
Elle est deuxième et les médailles d'argent du 100 mètres. On avait des petits doutes sur elle, de par son faciès déjà, un petit peu masculin. Et puis surtout aussi parce que dans les vestiaires, elle se cachait beaucoup. Mais bon, on lui remet la médaille. Quelques années après, c'est pour ça que je reviens sur l'histoire de Cyprien et des hold-up et d'interventions policières. Elle est tuée dans un hold-up aux États-Unis en 1980. Autopsie. Et on s'aperçoit que c'est un homme. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a obtenu toutes ses médailles en étant femme. Et en fait, il y avait une ambiguïté sexuelle.
Il y a un chapitre consacré d'ailleurs aux tricheurs, dans le livre.
Moult tricheurs, énormément de tricheurs. Marion Jones, qui a tout gagné, championne du monde, championne olympique.
Tout rendu, hein.
Plus de 150 contrôles anti-doping, elle est passée à travers. On ne trouvait aucun produit. Rien. Et il a fallu qu'après... avoir été en prison d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis on ne pardonne pas de mentir devant les tribunaux. Elle a menti devant un tribunal, prison. Et à la prison, elle a fait ses aveux en disant « Mais évidemment, je suis dopée. Évidemment, j'ai pris tous les produits du monde, tout ce qu'il faut. »
Elle est passée entre les
Et elle est passée à travers. Ouais, c'est fou. C'est à la fois inquiétant.
Il y a un extraterrestre quand même. Il y a un extraterrestre.
Usain Bolt. D'abord, moi, il me fait craquer, ce type. Parce que faire des grimaces, se comporter comme il se comporte...
Totalement décontracté.
À 10 secondes du départ d'une finale olympique. En plus, il est sympathique.
Il court vite.
Et il est en couverture. Il est en couverture.
À chaque fois, j'ai manqué ses cours. C'est-à-dire, vous êtes devant la télévision, vous faites tomber vos paquets de chips, vous le ramassez, hop, champion olympique.
Et puis, par exemple, Stéphane, il y a l'histoire de la photo de 1968 de Tommy Smith et John Carlos, qui gagne la médaille d'or et la médaille de bronze du 200 mètres.
Et qui lève le poing.
Qui lève le poing noir, donc, avec un gant ganté. Parce que la plupart du temps, et j'avoue que je ne l'avais pas fait, moi, je n'avais pas regardé le troisième homme de la photo. Le coureur blanc australien, on l'a oublié. Or, il est très important pour l'affaire. Pourquoi ? Parce que les deux militants américains, les deux coureurs américains qui voulaient se révolter et qui voulaient un peu faire Black Panther à l'époque pour lutter contre la ségrégation, avaient oublié une paire de gants. Il voulait se ganter les points pour le lever. Et il n'avait qu'une paire de gants pour deux. Et c'est Peter Norman, l'Australien, qui est sur le podium avec eux, qui lui a dit, mais toi, tu mets à la main droite.
Et l'autre, il met à la main gauche.
C'était malin.
C'est le cerveau.
Et surtout, il a été puni. Il a été puni pour ça.
Maillot Express.
Ah oui, un petit peu d'histoire tout de même. Robert Larousse nous écrit, on l'embrasse. Salut Robert. Dans la Grèce antique, les Jeux Olympiques étaient célébrés tous les 4 ans près d'Olympie à partir de 776 avant Jésus-Christ pour disputer les prix de concours de gymnastique. Au sens moderne, les JO sont une série de rencontres sportives internationales réservées aux meilleurs athlètes de chaque nation. Réservé aux meilleurs athlètes. Bah, c'est ça qu'on devrait faire, nous aussi. Envoyer les meilleurs.
Vous écoutez RTL. Maillot Express.
Oui, beaucoup d'interrogations. Michel nous écrit. Vous savez que la situation politique est un petit peu tendue en ce moment.
Ah bon?
Oui, au Brésil. Hein, ça,
ah, au Brésil.
Au Brésil. Ah, oui.
tout va bien.
Ici, tout va bien. Ailleurs aussi. Alors, la grande question en suspens, faut-il que les sportifs français boycottent les Jeux Olympiques de Rio? Bah, pourquoi pas, hein, y a une logique. Ça fait déjà 20 ans que les sportifs français boycottent les podiums des JO. Faut pas s'arrêter en si bon chemin, les gars.
Express.
Merci, Régis. J'ai quelques rumeurs du net.
Les rumeurs du net.
Chaque année, vous notez dans un cahier, Gérard, les objectifs que vous fixez. Cette année, on va faire tel exploit avec mes fils.
Oui. Cette année, c'est l'italien.
Apprendre
l'italien et savoir me débrouiller en moins de 6 mois.
C'est la méthode Assimil
Alors, entre autres, oui. Assimil, ça m'a déjà permis d'apprendre le suédois il y a quelques années.
Et en ce moment, c'est l'italien.
Qui a déjà enseigné à Frédéric Mitterrand il y a quelques années.
Et là, Anna bunga.
Ma imparo italiano ogni mattina. Si.
Ah oui, vous parlez. Bravo. Il paraît que vous rêvez d'écrire une comédie musicale.
Oui, je suis en plein dedans, je suis au milieu. J'ai déjà trouvé d'ailleurs mon compositeur. Malheureusement, je m'étais adressé il y a quelques années à Michel Delpech qui était d'accord sur le thème et qui avait promis de m'aider. Et puis,
Michel Legrand.
Non, mais j'ai une autre idée. Et ça fonctionne, et voilà. Et oui.
Il n'est pas impossible que vous habiterez Rome et que vous travailliez à la RAI.
J'habite déjà à Rome, qui est une merveille absolue.
À la
Villa Medici, comme ils disent là-bas, l'Accademia di Francia à Rome.
Il faut rappeler que votre épouse est donc la directrice de la Villa Medici, Muriel Mayette, qui a dirigé la Comédie Française.
Oui, alors, première femme qui a dirigé la Comédie Française depuis 1666, c'est-à-dire depuis juste après Molière, femme, et là une nouvelle fois, la Comédie Française c'est 1680, et là c'est 1666 de Louis XIV, Colbert, première femme, je suis très fier, je suis très amoureux, fier, j'admire beaucoup.
Au point que vous alliez suivre votre épouse
à Rome. Oui, je vais m'installer à Rome, ça y est, j'ai amené la guitare, les bouquins, les vélos surtout.
C'est bien si vous partez pas dans une studette.
Oui, en plus, c'est bien logé.
Même si on paye un loyer, attention, logement de fonction, mais le ministère de la Culture nous impose un loyer quand même.
On peut louer des chambres, la Villa Médicis.
Seulement
si on est artiste, Patrice.
Non.
Ah non ?
C'est ouvert à tout le monde, non ?
C'est ouvert à tout le monde. Non, parce qu'il y a deux choses. Il y a des pensionnaires.
Il y a les pensionnaires,
Il y a 14 pensionnaires qui vont là-bas pour créer, réfléchir.
Qui sont pendant un an.
Des peintres, cinéastes, vidéastes, etc., qui sont là pendant un an. Et puis,
on peut louer un week-end.
Vous passez un petit coup de fil.
On vous appelle. Week-end à Rome.
Avec ou sans Étienne Dao.
Mais avec Muriel Mayette et Gérard Rolle. Ça, c'est le bonheur. À tout de suite pour la suite de la bonne heure. C'est Éric Dussard qui est revenu et qui, donc, maintenant, va se coller à vous êtes lavé les mains.
À votre grand regret.
Il a les mains propres.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence, et vous nous l'avez annoncé tout à l'heure, par un coup de chaud.
Et oui, malgré cette magnifique météo d'octobre, David Pujadas a eu un gros coup de chaud hier soir aux 20h de France 2. On l'a bien entendu s'énerver après la régie. Il pensait en fait que son micro était éteint. Dommage, il n'était pas du tout éteint.
La grève a également été reconduite à 85% jusqu'à mercredi midi. Non, je suis très calme. Je te dis juste, tu m'informes, tu... Bien, Guillaume Daret, avec vous maintenant, deux questions pour bien comprendre.
Ce que je préfère, c'est le changement de ton au moment où il comprend qu'il est en tête. Hop là, une seconde, il redevient le mec le plus zen du monde. Ouais. C'est
magique. Il fait bien, bien entre les deux.
Il est pro. Il y a le petit geste en plus qui accompagne. Hein. Ouais.
En
on
fait,
pas
pour
l'image,
expliquer
là,
mais... les choses, hein, j'ai, comme j'ai eu la chance de présenter le journal télévisé, c'est qu'il a une oreillette et là, il est en train de parler à son rédacteur en chef dans la régie qui lui a dit quelque chose par l'oreillette. Donc, en fait,
vous savez ce que lui a dit son rédacteur en chef ? Démerde-toi.
Chacun pour soi.
Courtois et calme. Oui, alors, parce que vous nous en présentez d'autres sur UTV ou sur BFM qui sont beaucoup plus agressifs.
D'autant qu'il aurait pu être davantage dans l'agressivité avec ce qu'ils lui ont fait vivre, effectivement, hier soir pendant ce journal. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit ils ont pris l'eau en régie, soit ils sont repassés au format cassette VHS pour les magnétos. Mais en tout cas, rien ne marchait. L'horreur pour David Pujadas.
D'abord, regardez ces images. Elles nous viennent d'Allemagne. Des fleuves en crue et un bilan déjà lourd. Amaury Guibert, Brice Boussoir.
Non, il n'y a pas.
Voilà, nous n'étions pas en Allemagne, mais c'était des images de Bourgogne qu'on découvrait. Nous allons donc, si tout va bien, retourner en Allemagne. Non. Alors ce sera pour tout de suite, ce sera pour maintenant. Ah bah en France, c'est donc en Bourgogne que se concentrent les dégâts. Images commentées par Anne-Claire Poignard.
Non, il n'y a pas non plus, chef.
Décidément, nous n'arrivons pas à vous montrer ces images de Bourgogne. C'est parti, commentaire Anne-Claire Poignard.
J'adore Anne-Claire Poignard, c'est justement, ça tombe bien parce qu'il avait envie de tuer. Hein, poignard. S'il avait eu un poignard, justement, je pense que ça serait très mal passé.
La solitude du présentateur.
C'est horrible. C'est terrible. Hein. Alors, si ça peut le consoler, c'était pas mieux hier soir du côté du grand journal de Canal+. On sait que cette émission prend l'eau au niveau audience depuis la rentrée. Eh bien, hier soir, ils ont pris l'eau au sens propre, cette fois à cause des pluies diluviennes sur la région parisienne. Décidément, c'est le Titanic, le grand journal.
Salut à vous tous, j'adorerais vous dire ce soir bienvenue sur le plateau du grand journal, mais je ne peux pas. Car il est fermé, on a payé la note, c'est pas ça, on a un dégât des eaux, vous savez qu'il a plu, qu'il y a des orages et que donc nous avons un petit problème avec notre décor ici à la SFP. Et donc pendant une petite semaine, on sait pas trop quand est-ce qu'on va récupérer notre plateau. On va travailler ici sur le plateau du CFC.
À mon avis, les canards sur la porte de leur studio, elle est pas encore au courant, mais c'est Vincent Bloré qui l'a posé. Hein. Je pense que c'est pas lié aux inondations, c'est, il aura pas dit encore pour la rentrée. Je suis pas sûr que ce soit qu'un dégât des eaux. Mais vous imaginez les conséquences que ça a, donc même au niveau de la télé, parce que oui, chers amis qui nous écoutaient en région, nous sommes actuellement avec notre bruit canard à Paris. Il pleut depuis 4 jours.
Et oui, et il n'a sans discontinuer, il pleut.
Ah, mais c'est une folie. On a rarement
c'est pour
vu
ça que vous frisez autant.
Oui, exactement. J'ai jamais autant vu d'eau. Que d'eau, disait MacMahon. Hier soir, le pire de la télé a été récompensé.
Oui, avec la fameuse cérémonie des Gérards sur Paris 1ère. Alors, pas de prix pour vous, Stéphane. Hein, le non, Gérard du décor du le plus criard pour lequel vous étiez nommé avec Comment ça va bien a finalement été attribué aux Amours. Désolé, réessayez l'an prochain. Et vous le savez, il y avait un prix très attendu pendant cette cérémonie, c'est celui-ci.
Voici le Gérard du migrant qui a visiblement mal choisi son passeur.
Les lauréables sont
Claire Chazal, migrante de TF1 vers France 5. Estelle Denis, migrante de TF1 vers D8. Valérie Damido, migrante de M6 vers Énergie 12. Et Thomas Touroud, migrant de Canal+, vers le 28 rue des Tulipes, dans le 10e, chez lui, quoi, sur son canapé.
Ah, il est attribué à
Claire Chazal.
Bravo Claire. Ah oui, en même temps, elle ne pouvait que gagner. C'est vrai que passer de 6 millions de téléspectateurs à 200 000 sur France 5, de ce point de vue, elle était imbattable pour les bons jours. En parlant de petits scores, autre Gérard, celui de l'émission que personne ne regarde, qu'ils ont appelé ainsi.
C'est le Gérard de l'animateur que tu peux connaître uniquement si tu es chômeur ou alors si tu es séquestré dans une cave.
Les lauréables sont...
Thomas Hill dans La Quotidienne sur France 5. Vincent Ferniaud dans Midi en France sur France 3. Damien Thévenot dans Un mot peut en cacher un autre sur France 2. Et Cyril Ferraud dans Slam sur France 3.
Et c'est La Quotidienne de France 5 qui a remporté Gérard. L'excellent Thomas Hill qui en est le présentateur est d'ailleurs venu sur scène. C'est marrant, de plus en plus d'animateurs jouent le jeu. Alors vous ne serez pas surpris d'apprendre que Julien Lepers est venu chercher son prix de l'animateur qu'on n'a jamais autant vu à la télé que depuis qu'il s'est fait virer de la télévision. Mais alors, en revanche, beaucoup plus surprenante, la présence également d'Arthur, élu animateur le plus mégalo de la télévision.
Et en fait, je voulais remercier, ça met du baume au cœur quand même. Parce que je recevais plus de prix. J'étais le mec le plus antipathique, j'ai été largement battu depuis quelques années, le plus arrogant. J'ai l'impression que je suis en train de baisser dans le classement des gens qu'on déteste. Je vais finir dans le classement des gens qu'on aime bien et là, j'aurais mal fait mon boulot.
Oui, ça sera raté.
Merci de m'avoir redonné un peu d'espoir.
Voilà, mais satisfaction de courte durée pour Arthur puisque c'est quand même Cyril Hanouna qui a reçu le Gérard d'animateur de l'année. Animatrice, c'est Alessandra Sublet. Bon, alors, un regret quand même dans cette cérémonie, ils auraient aussi pu faire un prix nommé le Gérard Holtz pour récompenser la blague la plus osée et ainsi rendre hommage à cette vanne, Gérard, que vous aviez osé faire à Raymond Poulidor. Raymond Poulidor qui portait ce jour-là sur votre plateau un t-shirt jaune.
Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Et maintenant, vous lavez le maillot jaune. Hein, vous qui ne l'avez jamais porté pendant votre carrière.
C'est pas la pire.
C'est tout le poupou qui avait viré au jaune. Il riait jaune aussi. J'ai pas parlé de la Belgique.
Non, la pire.
Pour tout à l'heure parce que oui. Malheureusement, il va falloir qu'on se retrouve. C'est le temps des informations, Gérard.
Mais
je vais vous interroger, je n'oublie pas. Merci Eric. RTL, il est maintenant midi.
Vous écoutez RTL.
Midi et 5 minutes sur RTL. À la bonne heure, continue maintenant avec Stéphane Bern.
Exactement, merci beaucoup Céline Landreau. Et nous sommes non seulement en compagnie de Gérard Rolls, à qui je vais demander sa pire gaffe dans un instant. Mais d'abord, Vincent Parizeau est avec nous.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Vincent, quels sont vos sujets d'RTL midi à 12h30
Si je vous dis la pluie, vous n'allez pas tomber de là, moi. Évidemment.
Vous faites la pluie et le beau temps.
Ouais, oui, si on veut.
Il
y a quand même des secteurs où ça devient très problématique. On pense au département de Lyon, on sera avec la préfecture de Lyon tout à l'heure. On ira aussi à la prison de Saran, qui doit être évacuée. Et c'est pas rien quand même, d'évacuer plusieurs centaines de détenus comme ça. Ça a déjà commencé, on verra comment ça se passe. Et évidemment, surtout, on invite les auditeurs d'RTL à faire le 32-10. Et pour nous raconter un petit peu ce qu'ils vivent et comment ils le vivent. Alors, on va parler aussi de la guerre des âges. Pourquoi ? Vous le savez sans doute, ce soir, pour la première fois à 20h50, notre ami François Langlais va présenter l'Angléco sur France 2 avec un sujet qui nous a beaucoup intéressé. C'est les inégalités entre les générations. On peut appeler ça la guerre des âges. 61% des Français estiment que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Visiblement, ceux qui ont été assez, qui ont eu beaucoup de chance, ce sont ceux qui sont aujourd'hui seniors, les baby-boomers.
Les papy,
voilà, et qui entament à la fois de contrats de travail dans les entreprises,
de plein emploi.
De plein emploi, de retraite, etc.
Et de santé, parce qu'on va vivre moins vieux maintenant, à partir de maintenant.
Voilà, l'avenir sera peut-être moins rose. Donc on attend vraiment vos témoignages au 3210 et on sera évidemment avec François Langlais pour en parler.
C'est les 68 arts, c'est ceux qui ont voulu changer le monde qui ont surtout changé leur vie.
Voilà, pour eux, ça s'est bien goupillé en tout cas. Le troisième sujet, la pilule du lendemain. Pourquoi ? Oui. Parce qu'elle était déjà disponible dans les collèges et dans les lycées, mais à une condition que la jeune fille... Oui, évidemment, mais surtout, exprime une situation de détresse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On va voir l'infirmière scolaire. On peut désormais aller voir l'infirmière scolaire, demander la pilule du lendemain et on vous la donne. Ce qui pose évidemment un certain nombre de questions, notamment en termes de relâchement. Peut-être de l'attention sur les préservatifs,
la contraception
habituelle, par exemple. Est-ce que ça ne serait pas finalement un mode de contraception?
Moi, ça m'arrange.
Pour les jeunes. Mais on sera avec la coprésidente du planning familial, mais là aussi, on attend vos témoignages au 3210 sur ces sujets, sur tous les autres.
Vincent, vous n'avez pas un truc sur Zika, parce que c'est l'obsession de Stéphane depuis le début de l'émission?
Mais on peut parler de Zika. Et puis surtout, si c'est votre obsession, Stéphane, vous n'hésitez pas.
Parce que j'ai peur d'aller aux Jeux Olympiques.
Il veut
pas aller à Rio.
À Rio, c'est
Stéphane, vous savez qu'on envoie
c'est
à Rio
plutôt dangereux pour les femmes enceintes, non?
On ne sait jamais. Avec la pilule du lendemain.
Jamais ce qui peut arriver.
Merci beaucoup, Vincent Parizeau. Alors, Gérard Holtz est avec nous. Les 100 histoires de légende des Jeux Olympiques avec Julien Holtz. Avant de vous poser la question à poser, il faut absolument que vous me racontiez alors. Oui. C'est quoi votre pire gaffe ?
Alors, ce n'est pas vraiment une gaffe en fait. Ça s'est passé pendant Stade 2 avec Yannick Noah.
Oui.
Yannick, qui venait de gagner Roland Garros, déclare forfait pour Wimbledon, le tournoi qui se joue sur herbe, d'accord ? Et je dis à Yannick, mais pourtant Yannick, on sait que vous aimez beaucoup l'herbe. Voilà. Et, alors, il a mis un petit temps. Il a mis un petit temps. Il a quand même éclaté de rire. Parce que ça
c'est pas très
à l'époque,
méchant.
Il venait, c'est lui-même de dire dans un magazine.
Il
ne s'est pas mis en pétard.
Voilà.
Vous avez dit, j'ai fait pire ici avec Marion Bartel.
Oui.
Ah oui, la pelouse.
Vous avez beaucoup la pelouse. Pas l'air, mais la pelouse.
J'ai confondu la pelouse et le gazon.
Son petit copain nous regardait bizarrement.
Gazon
maudit. Ouais.
Ah. C'est de là que Galbert l'a appelé pour faire une campagne.
Elle en rit encore. Bon,
où le
c'est le moment de la question imposée à poser.
La question imposée à poser.
J'ai pas lu la question, je l'ai pas écrite non plus.
Alors, si Muriel Mayette n'avait pas été nommée à la tête de la Villa Médicis, est-ce que vous auriez quitté aussi facilement la télévision ? De toute façon, je suivais ma femme, quoi qu'elle fasse. Parce qu'il y a tellement de femmes qui le font pour leurs hommes, pour leurs maris, oui, quand ils sont correspondants de presse quelque part, pour une radio, ou des chefs d'entreprise, ou des diplomates. Il n'y a pas de raison que l'homme ne fasse pas pareil quand il aime sa femme. Donc, j'aurais suivi Muriel. Même, il y a un moment, il y a une ministre de la Culture un jour qui lui a dit « Mais attendez, je vais vous nommer ambassadrice, mais pas au Kazakhstan, hein, ben non. » C'est une plaisanterie, oui. Ouais, c'est incroyable.
Qu'est-ce qu'ils sont drôles dans l'administration.
J'aurais suivi, oui, l'aurais suivi, mais de toute façon, c'est vrai que moi j'ai pris ma décision de quitter France Télévisions déjà il y a 3 ans. Et que grâce à Daniel Bilalian et aux dirigeants de l'époque, je suis resté. Pourquoi ? Parce que j'ai pris un grand plaisir, ça a été du bonheur professionnel, de réaliser mon premier documentaire il y a 3 ans qui s'appelait Le Vieux Gaulois et sa petite reine, qui était à propos d'Eugène Christophe en 1913, à propos du Tour de France. Puis ça a été un succès, 2 millions de téléspectateurs, 17% de part de marché à 18h. Donc, ça a
commencé à marcher. Et là, vous récidivez au mois de juillet avec un autre documentaire.
Le 19 juillet.
Et puis, j'oublie pas que
Soleil de juillet, voilà.
13 juillet, vous êtes à l'Opéra Comédie à 20h, dans le Malade Imaginaire de Molière à Montpellier, avec la Compagnie de la Reine.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et je rejoue. Il y a plein de dates.
Je rejoue Argan. Oui, je rejoue Argan.
Exactement.
Avec un énorme plaisir de jouer avec mes copains de la Compagnie de la Reine, oui, et avec mon fils Antoine aussi, qui joue Thomas Diafoirus, qui fait un malheur dans Thomas Diafoirus.
Venez,
tous ceux qui nous entendent là, venez. Hein.
Et
c'est gratuit.
Mais oui, bien sûr, parce que c'est une compagnie théâtrale qui se produit partout en France. On va retrouver Patrice Carmouze maintenant pour son test à l'aveugle.
Vous écoutez RTL.
11h-12h30.
À la bonne heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Nous sommes toujours avec Gérard Holtz pour son livre Les 100 histoires de légendes des Jeux Olympiques chez Grune, avec son fils Julien. Mais Patrice Carmouze est à nos côtés. Il a bien travaillé son test. Alors je vous demande Patrice, il faut maintenant qu'on écoute les chansons.
Voilà, alors. Oui. On va commencer d'abord par des chansons qui ont été des hymnes des Jeux Olympiques. Alors il faut me dire si vous pouvez qui chante. Et puis, si vous le savez, quelle ville.
Des hymnes des Jeux Olympiques, mais il n'y en a qu'un.
Des chansons qui ont été écrites pour des Jeux Olympiques.
Hein. D'accord.
Et pour des Jeux Olympiques qui sont déroulés dans certaines villes.
Ça commence mal. Parce que ça commençait bizarrement.
Non, c'est des Jeux Olympiques.
Il faut trouver qui chante et peut-être dans quelle ville ces Jeux Olympiques.
Est-ce qu'ils ont battu le record
C'est Whitney Houston.
Atlanta,
dis donc.
84, Los Angeles.
Berne.
Non, 4 ans plus tard.
88.
88.
Séoul.
Séoul. Séoul, Séoul.
Il y a Berne qui arrête pas de tricher.
Oui.
Vous arrêtez. Hein.
Whitney Houston. Écoutez un peu Whitney Houston.
Pour Séoul.
Pour Séoul.
C'est beau.
C'est
bon. Ouais.
Deuxième extrait.
Barcelone.
Queen. Et qui chante?
Queen.
C'est une
cantatrice.
Elle a chanté avec Montserrat.
Oui. Montserrat Caballé.
Fred Mercury et Montserrat Caballé.
Montserrat Caballé.
Fred.
Championnat de Barcelone. Extraordinaire.
Alors ça, c'est peut-être.
C'est connu. Enfin, en tout cas, c'est même plus récent.
Ah ouais.
C'est Björk. Alors ça doit être la Norvège, l'île à
l'Islande.
Vous voudriez savoir.
94.
Londres. 2012. Non.
Non, c'est pas Londres. On doit.
Athènes.
Les Jeux Olympiques
d'Athènes. C'était pour les Jeux Olympiques
2004.
J'y étais en plus.
Vous étiez, oui.
Il n'y avait pas de soutien.
Ouais. Et donc, il restait, c'est un choix assez curieux,
ah, ouais,
curieux
ouais,
pour
ouais.
les Jeux d'Athènes.
Alors que c'est pas les chanteurs grecs qui manquent.
Oui. Nana Mouskouri.
Elle a fait la clôture. Elle a fait la clôture.
Alors
enfin, elle a fait la clôture. Elle a pas planté la clôture.
À celle qui mettait les
la
piquets.
La cérémonie de clôture.
Alors, extrait suivant.
Moderne, c'est, ça. C'est plus moderne.
C'est Céline Dion, ça, ben, ils l'ont en remix alors.
En remix alors.
Céline Dion de Dance,
on l'a changé. C'était pour Atlanta. Donc, c'est bon.
Ah oui.
Alors maintenant, on va passer à des chansons qu'on chante pour des événements sportifs. Et là, c'est plus facile. Vous allez me dire pourquoi on chantait par exemple ça.
Le bah, foot.
France 98,
ouais,
c'est
oui.
du monde.
Rappelons et c'est que c'est Amel
Gloria Gaynor.
Ouais.
Voilà.
Gloria Gaynor. Et rappelons quand même que ce fut un hymne de la communauté gay pendant les années
absolument.
70 avant
alors,
de devenir celui des
Gloria
footballeurs.
Oui, ça date de 78.
Ah oui, c'est important de le dire.
celle-là.
Oui, en fait.
En deux chaînes.
Non, non, mais j'avais une petite gagne. Histoire à propos de Gloria Gaynor, bah, oui. en fait, parce que c'est une de mes amies qui chantait bien et qui avait remixé, en fait, cette chanson-là de ouais. Gloria Gaynor, que les joueurs de football mettaient dans les vestiaires. Je crois que c'est Fabien Barthez
ouais.
qui, pour motiver un peu tous ses copains, etc. Et puis ensuite, comme c'est devenu un succès, eh bien, les c'est producteurs redevenu, ont voilà. rappelé Gloria Gaynor pour chanter l'original.
Il ouais. y a Régine qui dit toujours que c'est elle qui l'a inventé.
Oui. Oui.
Au début, j'étais pétrifié.
J'étais pétrifié,
mais
c'est
même maintenant.
Plus que Régine oui, prétend que c'est elle qui l'a écrit et que oui. ça a été après repris par Gloria Gaynor. Ça, bon, donc, We Are the Champions, c'est évidemment. C'est...
Ligue des Champions.
Ouais. Ouais, c'est quand on oui. gagne un
c'est
truc.
C'est partout, ouais.
Ça marche pour tout.
Alors, ça a été écrit en référence à la victoire de l'équipe d'Angleterre à la Coupe du Monde en 66.
Oui, bien.
Et après, ça se joue pour à peu près. Toutes les victoires.
Ils sont hyper gay-friendly en fait, les sportifs. Hein. Queen, ouais. Gloria Gaynor.
Oui, c'est, ça.
C'est
bien.
C'est on sait que les footballeurs sont très gay-friendly. Hein.
très utilisés. Ça, évidemment, ça, vous rappelez quelque chose.
Bah, 68.
Ouais.
Les Jeux Olympiques de Grenoble. Et paraît-il que Jean-Claude Killy n'aimait pas trop ça.
Ah,
cette chanson de Hugo.
La douce main.
La douce main. Alors qu'il a beaucoup d'humour, Jean-Claude, en plus.
Il est triple champion olympique, hein, donc on rappelle de...
Et qui s'est arrêté juste après, ça aussi, c'est très
alors,
très
dernière
fort.
Chanson.
Allez, bah, celle-là. Ah,
bah, c'est celle-là. Liverpool, ouais. You'll Never Walk Alone.
Ouais. Yeah.
Ah, non, mais quand il y a
bravo, Cyprien. Cyprien. Les Reds de Liverpool.
Les Reds de Liverpool, les, c'est aussi...
Les chants des supporters anglais sont magnifiques.
Formidable.
Oui.
C'est une vieille ouais. chanson, ça, d'une comédie musicale qui est de 48 ans.
Ben, merci beaucoup, Patrice.
Vous écoutez RTL.
RTL,
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Alors, nous sommes toujours avec Gérard Rolls. Vous nous avez toujours encouragé à faire du sport.
La réponse
faites
est oui.
du sport.
Oui, bah, oui, oui. Mobilisez-vous d'abord.
Vive le sport.
Voilà. Et je dis, j'ajoute, une journée sans sport est une journée de perdu.
Ah, oui.
Un peu comme Chamfort le disait pour le rire.
Et alors, vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, la première dame, elle a donné l'exemple. Elle faisait avec le hula hoop, elle prenait un cerceau et puis elle se pour obliger les gens à faire à se bouger.
Vous le faites bien le hula hoop.
Mais oui, mais surtout sur ma chaise ici dans le studio d'RTL.
Et bien
là, il y a une activité. On se dit, ben il faut à la fois, parce que les chiens, nos animaux domestiques, sont aussi en surpoids comme nous.
Oui.
Et donc, en fait, il faut faire des activités ludiques avec nos animaux domestiques, bon, avec les chiens principalement, parce que... Et donc, on nous suggère maintenant de pratiquer du canicross. Vous savez ce que c'est que le canicross ? C'est pas du canicross,
ça n'a rien à voir. On
fait faire du jogging à son chien.
À son chien, avec lui. Et vous mettez une laisse amortisseur autour de la taille et vous courez avec votre chien.
On a trouvé un nom pour cette activité.
Oui, oui.
C'est on brûle 600 calories à l'heure.
Belle époque.
Kilocalories.
Oui. Et vous avez aussi le frisbee. Le frisbee.
Ah, on lance le chien
ouais. Non. Vous lancez le frisbee et le chien le rapporte.
Parce que c'est vrai, Eric Dussard a raison, le lancer de chien, c'est très...
Ah
c'est,
non,
c'est
non.
Plus gros, les petits, les javelots.
Ouais. Ça dépend de la taille du
moi,
chien.
Moi, j'ai eu un cocker, il volait très bien avec ses oreilles.
Essayez
de lancer un pitbull.
Il y a une activité formidable, c'est de nager. Enfin, pas de nager, c'est vous courez le long de la... Cet été, par exemple, vous êtes au bord de la plage, vous courez avec votre chien, parce que c'est dans l'eau, vous savez, ça double.
Vous n'avez pas nagé avec vos teckels dans la piscine à Marrakech, hein, avec vos boudins de piscine.
Non,
c'est hors de question.
À condition de ne pas avoir un chien qui est un sauveteur, vous savez, qui va repêcher les gens dans l'eau. J'avais vu comme ça sur une plage, il y avait un chien comme ça, dès que les gens allaient dans l'eau, l'Europe, il allait l'Afrique. Il est ramené de force sur le rivage. C'est, ils ont trouvé ces 30 millions d'amis qui nous le rappellent, le magazine. C'est important à la fois de faire du sport, mais d'en faire faire à son animal. Et oui. C'est, ça, ça rend le, l'activité sportive plus conviviale.
Moi, j'ai un hamster qui fait ça. Oui. Une ça, c'est ça, ça m'alimente en électricité, oui. C'est formidable.
Allez, on retrouve Gérard Rolls tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Bonjour, Charlotte de la Poste Solutions Business.
Bonjour, je dois envoyer des pièces détachées par Colissimo à mes clients, mais je suis coincée à l'atelier. Vous êtes en ligne ?
Oui, je suis en ligne.
Oui, je sais, mais pour l'affranchissement de mes Colissimo, vous êtes aussi en ligne ?
Oui, l'offre entreprise Colissimo est aussi en ligne. Accessible 24h sur 24 depuis votre ordinateur et avec un tarif avantageux pour les pros.
Pratique ! Nous sommes donc sur la même ligne.
Découvrez Entreprise Colissimo en ligne. Une offre pro de la Poste Solutions Business. Rendez-vous sur laposte.fr/colissimo-entreprise ou appelez le 36 34 30 centimes à minute.
Tiens, tu peux venir s'il te plaît. Il faut décharger les 6 sacs de ciment.
Simon ? Ah, c'est qui Simon ?
Bien essayé. En attendant, les sacs de ciment, ça ne se décharge pas tout seul. Mais bonne nouvelle, à partir de 149 euros par mois, vous les chargez dans votre utilitaire Volkswagen, incluant la solution de mobilité Careport Pro. Une offre qui comprend tout, ou presque.
Location longue durée 48 mois, 40 000 km, à partir de 149 euros hors taxes sans apport pour un caddie van jusqu'au 31 août 2016, si acceptation par Volkswagen Bank. Solution Careport Pro également disponible sur Transporter, Crafter et Amarok. Informations sur volkswagen-utilitaire.fr.
Et là, je dis à mon beau-père qu'avec Direct Energie, j'économise 10% sur l'électricité et le gaz.
Et ?
Et là, il me dit que lui aussi, mais que lui, ça fait 2 ans.
Ah, et donc ?
Ben, j'ai repris du dessert.
C'est moche.
Avec Direct Energie, en 5 minutes et dès aujourd'hui, vous pouvez payer votre électricité et votre gaz jusqu'à 10% moins cher. Appelez le 3099 ou rendez-vous sur directenergie.com. Services et appels gratuits, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Leclerc. Philippe, c'est quoi tous ces paquets d'emmental râpés dans le frigo ?
C'est de l'emmental râpé français extra fin entre mont au lait de vache que je viens d'acheter en promo chez Leclerc.
T'en as pris 3 paquets ?
Bah, 2 achetés, 1 offert.
Ah d'accord.
C'est parce qu'il y a mille et une façons de l'apprécier que du 1er 11 juin chez Leclerc, pour l'achat de 2 paquets d'emmental râpé français extra fin entre mont de 160 grammes chacun, 29% de matière grasse est transformé en France, le troisième est offert. Voir modalité dans les magasins participants.
J'adore ça le fromage râpé. C'est bon dans tout !
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Quand on arrête de fumer, certaines habitudes sont souvent difficiles à perdre. Comme la cigarette que l'on fume pour surmonter son stress. Et dans ces moments-là, on a parfois besoin d'un coach. À tout moment, votre application Tabac Info Service est là pour vous accompagner. En cas de coup dur, vous profitez d'astuces pour surmonter vos envies. Et pour entretenir votre motivation, vous recevez régulièrement des conseils personnalisés de tabacologue.
Pour arrêter de fumer, téléchargez gratuitement l'application Tabac Info Service sur l'App Store et Google Play. Un service du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Eh bien, j'ai juste le temps de remercier Gérard Rolls. C'est toujours une joie de vous accueillir, cher
merci.
Gérard.
Merci Stéphane. Merci moi aussi, vraiment. Donc, c'est un grand plaisir.
Je rappelle, il y a ce livre avec Julien Holtz, Les 100 histoires de légendes des Jeux Olympiques, publié aux éditions Grund. Il y a le théâtre, évidemment, avec
oui,
le Maladie
pendant le Tour de France.
Pendant le Tour de France.
Gratuitement. Il suffit d'aller sur Optique 2000. C'est très simple, sur le site Optique 2000. Et on s'inscrit.
Quel rapport avec les lunettes ?
Mais parce que c'est le mécène culturel. Ah, c'est le mécène ça culturel. Permet d'être gratuit. D'accord. C'est très simple.
Et même si on ne porte pas de lunettes, on peut y aller.
Non, oui. Il n'y a pas besoin de lunettes pour le malade. Oui.
D'accord. Alors vous chantez Johnny.
Eh bien, très bien. Et puis, vous embrassez Muriel Mayette pour nous parce qu'on l'adore et elle est formidable directrice de.
Et on arrive dans 2 mois.
Et on, voilà, on va trouver une date pour s'organiser.
Mais c'est une vraie invitation.
Mais oui,
venez,
venez.
Mais on vient. Pas tomber dans l'oreille d'un sourd.
Romain, avec 30 degrés en ce moment et la canicule, le soleil. Et vous savez, juste et le petit point d'humour du jour quand même. Le type qui joue contre Djokovic en ce moment à Roland-Garros, il s'appelle Agout. C'est quand même extraordinaire.
Allez, demain, nous serons avec Benjamin Biolay dans La Bonne Heure. Merci de nous avoir suivis. RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.